Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Raison gardée, son nouveau générique. Merci à la technique d'RCN pour le travail et avec nous aujourd'hui, Charles.
Bonjour Sylvie.
Et un invité qui a un peu de retard et que je présenterai tout à l'heure. Une émission consacrée aujourd'hui à la question des libertés avec un premier thème qui touche à la liberté d'expression. Parce que, alors qu'on vient d'apprendre que la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt visant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, qui lui avait été limogé du gouvernement, alors que donc ces mandats sont très clairement émis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis depuis le 8 octobre 2023, et au moins, dit le texte, jusqu'au 20 mai 2024, eh bien, en France, un projet de loi a été déposé par une députée Renaissance, la députée Renaissance des Français de l'étranger, Caroline Yadan, un projet de loi co-signé par l'ancienne ministre et députée des Yvelines, Aurore Berger, une proposition de loi qui vise à condamner entre guillemets, toutes les formes renouvelées de l'antisémitisme. Et cette proposition de loi est co-signée par 90 députés, 61 du groupe Ensemble pour la République, 14 d'Horizon et 5 du groupe Socialiste et Apparenté, dont
notre ancien président de la République, dit Flamby.
François Hollande, oui. Interrogée dans un grand article du Point, la députée explique ce projet et qui nous paraît très alarmant justement par rapport à la question de la liberté d'expression parce que le projet quand même crée une confusion entre antisémitisme et critique du gouvernement d'Israël, ce qui est quand même fort différent. Alors dans cet article du Point, elle explique qu'elle a travaillé avec un confrère avocat et qu'ils ont travaillé sur trois axes de ce qui relève pour elle d'une nouvelle forme d'antisémitisme, l'apologie du terrorisme, la négation de l'État d'Israël et la comparaison avec la Shoah. Et elle pointe par exemple l'expression de la rivière à la mer, je ne vais pas le dire en anglais pour ne pas heurter vos oreilles, mais c'est un slogan qu'on entend dans les manifestations en faveur du peuple palestinien. Et elle utilise ce slogan et elle a parfois la présentation de cartes sur lesquelles l'État d'Israël a disparu comme étant une menace qui s'exercerait contre tous les Juifs et donc l'expression de l'antisémitisme. Dans cet entretien toujours, elle affirme qu'aucun autre, je cite, hein, aucun autre État dans le monde n'a subi d'appel à sa destruction ou à une négation de son existence lorsqu'on critique sa politique. Elle donne des exemples d'autres États qui ont des politiques répressives et totalitaires comme l'État afghan ou iranien en disant que jamais on entend ce genre de slogan les concernant. Il s'agit pour elle, d'un point de vue juridique, hein, de faire entrer ces compléments. Si j'ai bien suivi sa logique, dans le cadre de la loi Guesso. Alors, la loi Guesso, c'est une loi qui date de 1990 et qui interdit, enfin qui fait tomber sous le coup de la loi le négationnisme essentiellement, c'est-à-dire nier l'existence de la Shoah et des chambres à gaz. Donc, elle rappelle qu'elle a le soutien de nombreux de ses collègues et elle pointe une partie de la gauche de l'Assemblée nationale qu'elle accuse plus ou moins en creux d'une forme d'antisémitisme. Alors là où les choses nous paraissent très, très dangereuses, c'est justement dans cette confusion qui est nourrie par ce projet de loi entre antisionisme et antisémitisme. Alors, l'antisémitisme consiste à exprimer une haine d'une personne pour sa religion, Alors que l'antisionisme, c'est l'expression d'une opposition à un projet politique et à une doctrine politique qui est aujourd'hui incarnée et mise en œuvre par le gouvernement de Netanyahou et qui implique de fait actuellement un colonialisme qui est pourtant très largement critiqué aujourd'hui par de nombreux pays du monde.
Bien sûr. Le colonialisme est aussi le fait que la Palestine a été créée par un décret que les Anglais avaient pris au moment du... Enfin, un décret, je ne sais pas comment on appelle ça, au moment du protectorat. Donc, il a permis l'installation en Palestine d'un foyer juif. Mais ce projet était bien sûr mené par des sionistes et qui voulaient reconquérir recréer le grand Israël de la Bible. Mais je ne sais pas depuis quand la Bible sert de cadastre pour établir un pays. À ce moment-là, quand elle était sous protectorat, la Palestine, les peuples qui pratiquaient la religion juive était largement minoritaire. La Palestine était peuplée essentiellement de Palestiniens, de Bédouins, qui étaient donc de majorité musulmane, et aussi il y avait une forte population qui était chrétienne. La colonisation s'est faite au fur et à mesure par des achats de terrain, certes, mais aussi après des 46-47, des 47, là, l'autorisation de créer un État israélien, enfin un État hébreu, a accentué donc la colonisation. Cette colonisation, elle est, on ne peut pas dire autrement, c'est aussi un apartheid, puisque la population palestinienne n'a pas les mêmes droits que les Hébreux. Voilà, c'est, enfin, je ne vais pas aussi développer, c'est assez long.
Mais des historiens israéliens comme Shlomo Sand ont démontré depuis assez longtemps le caractère un peu mythique du concept fondateur même du sionisme. Comme tu le disais tout à l'heure, la Bible n'est pas un document d'histoire.
Et, donc,
une géographie, et donc dans les textes religieux, Dieu aurait donné à Abraham et à ses descendants la terre d'Israël, donc dite Sion, et c'est notamment sur ce mythe-là que se fondent les revendications. La terre promise, oui. Et puis évidemment, ce qui complexifie aussi le problème, c'est le lien entre le fait d'avoir une appartenance à une communauté, ou une appartenance ethnique, et une appartenance religieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux se mêlent absolument, et contribuent à créer cette confusion qui est entretenue par ceux qui se révèlent soutien indéfectible de l'État d'Israël, alors que, on le rappelle quand même, la Cour pénale internationale a condamné les actions qui ont été commises, et que le génocide palestinien est
à Gaza, on peut parler d'un génocide,
évidence, hein. Voilà. Et pourtant, voilà, il s'agit d'interdire les prises de parole pour la paix entre les peuples et pour la défense du peuple palestinien, en faisant une apologie du terrorisme, ou en faisant croire qu'il s'agit de propos antisémites.
Quoi. C'est pas, non, pas du tout, quoi. C'est pas du tout un propos antisémite. Pour revenir à l'antisémitisme, il faudrait aussi qu'en France, on balaye un peu devant notre porte. L'antisémitisme existe depuis la création du christianisme, hein, et les temps des croisades, c'était déjà des guerres aussi économiques, pas que religieuses, bien sûr religieuses aussi, et puis qu'on a eu quand même un roi de France qui a quand même été sanctifié, qui s'appelle Saint-Louis, qui a fait porter l'écrouelle aux juifs, et puis je veux dire aussi, en France, il y a quand même la période 40-45, où la collaboration a quand même fait plus que ce que les nazis demandaient. Le gouvernement Pétain a permis quand même de la déportation d'enfants.
Oui. Alors l'Europe entière, hein, a infligé aux juifs depuis très longtemps des humiliations, des pogroms. Ils ont été chassés, ils ont été traités comme des personnes qui n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier non plus ce passé-là.
Alors, Dans ce profil aussi, pour justifier l'antisémitisme des personnes qui défendent les Palestiniens et la terre de Palestine appartenant aux Palestiniens, c'est que les Juifs qui ont été exterminés dans les camps de concentration ne venaient pas du tout d'Israël. C'était des peuples d'Europe centrale, de France, qui parlaient déjà le yiddish. Et c'est donc, on ne peut pas dire que c'est eux qui sont la cause de ce qui se passe en Israël à l'heure actuelle. On ne peut pas leur imputer ce drame-là. Et les Palestiniens ne sont en rien coupables de la Shoah. Mmh. Hein, et ils payent, c'est eux qui payent. Mmh. Ils payent ce truc-là. C'est horreur quand même. Mmh. On ne peut pas qualifier ça autrement.
Jean-Claude nous a rejoint au micro, bonjour.
Salut à toi.
Et tu me faisais signe, tu voulais dire quelque chose.
Simplement, j'entendais Charles parler d'antisémitisme. On est bien placé à Nancy pour en parler. Au début du siècle, au moment de l'affaire Dreyfus, il faut voir le déchaînement d'antisémitisme de l'Église catholique qui s'était alliée avec le petit anti-juif de l'Est. C'est pas mal quand même. Ils ont été d'une virulence, hein, c'était le peuple déicide. Hein. Et c'est vrai que l'antisémitisme, c'est une plaie. Mais moi, j'ai été traité il n'y a pas longtemps d'antisémite parce que j'avais dit, reconnaissant d'ailleurs que le Hamas avait fait des crimes, bien entendu, crimes de guerre, mais je disais, ça ne nous empêche pas de critiquer l'État d'Israël. Je ne parle pas des Juifs. Et bien sûr, on est tout de suite taxé d'antisémitisme.
Et donc, ce projet présenté par la députée Caroline Yadan entretient cette confusion, c'est ce qu'on disait, et risque fort de mener en fait à une réduction de la liberté d'expression, une restriction de la liberté d'expression tout à fait infondée. Et d'ailleurs, je commençais en rappelant que la Cour pénale internationale venait de formuler un mandat d'arrêt visant Netanyahou, mais elle vise aussi le chef de la branche armée du Hamas, dont l'armée israélienne avait annoncé la mort à la fin de l'été 2024, mais la Cour pénale internationale observe la situation telle qu'elle se passe avec les instruments du droit, et en revanche le projet de loi qui est posé sur la table là par tout un groupe de députés à l'Assemblée nationale crée vraiment une confusion, et espérons que le droit passera par là pour rappeler exactement la différence entre l'interdiction effectivement de prôner l'antisémitisme et la possibilité de critiquer une politique d'un gouvernement, la colonisation en cours et le génocide en cours.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a la même ambiguïté qui est entretenue entre sionisme et antisémitisme. Mmh, ouais. L'antisionisme, c'est pas l'antisémitisme. Mmh, ouais. Mais on est sans arrêt confronté à l'heure actuelle à des restrictions des libertés. Et c'est pas avec le gouvernement actuel, avec des Retailleau, avec des gens comme ça, que ça va changer. Et en plus, ils vont complètement dans le sens du mouvement à l'heure actuelle. L'Italie, l'Allemagne, ça commence à devenir un peu inquiétant. Puis il y a eu l'élection de Trump, ça leur donne des ailes.
Et d'ailleurs, il y a aux États-Unis des soutiens évidents à la politique d'Israël. Effectivement, on sent là qu'on est dans une période assez alarmante. C'était ce premier sujet autour de la question des libertés que je voulais aborder aujourd'hui, en faisant le lien avec l'actualité et ces mandats d'arrêt formulés par la Cour pénale internationale. Et après notre première pause, je propose de parler d'un autre sujet. Et Jean-Claude, je suis très heureuse de t'avoir au micro, puisque c'est un sujet que tu connais bien et qui concerne aussi nos libertés. Mais d'abord, on écoute un peu Bernard Lavilliers, Petit.
Un enfant avec un fusil trop grand. Un enfant marche lentement, à pas hésitant, au milieu du sang. Et du silence, et du silence. Un enfant mais apparemment c'est plus un enfant. Depuis très longtemps, trop longtemps, trop longtemps. Bientôt 10 ans, t'as jamais joué au voleur, au gendarme qui a peur, à l'insouciance. Petit, tu devrais regarder les filles et voir dans leurs yeux qui brillent des valses lentes. Tu vois dans leurs yeux des éclairs de feu, béton déchiré par les barbelés, et de temps en temps du cristal de sang. Quand vas-tu mourir? Un enfant avec un fusil trop grand. Un enfant, mais apparemment c'est plus un enfant. Que tu es comme un grand, comme à la guerre, évidemment. Bientôt 10 ans, il y a des pays tranquilles et des jardins dans les villes et de l'argent. Petit, tu sais pas jouer aux billes, tu revends les balles en cuivre pour le moment. Tu vis au milieu des éclairs de feu, béton déchiré par les barbelés, et de temps en temps du cristal de sang. Quand vas-tu? Un enfant trop vieux, un enfant trop dur. Un enfant, bien évidemment, peut tuer comme un grand. Et comme c'est la guerre, fais sa ronde, fais sa ronde. Et dans 10 ans, si jamais y'a plus l'enfer, si jamais y'a plus le fer, le feu, le sang. Petit, tu raccrocheras ton fusil comme un cauchemar qu'on oublie, apparemment. Petit, tu joueras peut-être au voleur et les gendarmes auront peur de l'insolence. Petit, tu feras danser les filles pour voir dans leurs yeux qui brillent des valses lentes. Mais au fond des yeux, des éclairs de feu, béton déchiré par les barbelés, et de temps en temps du cristal de sang. Que vas-tu devenir?
RCN, raison gardée, avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Et nous parlions avant d'écouter Bernard Lavillier de ce projet de loi déposé par une députée Renaissance qui concerne la critique de l'État d'Israël. Et pour information, mardi 26 novembre aura lieu la MJC Pichon à 20h, organisée par l'association AFPS, une conférence qui s'annonce vraiment passionnante avec Madame Chemillet-Gendreau, qui est professeure émérite de droit public à Paris Cité, qui a donc été invitée pour parler de la question du droit international. Elle a plaidé elle-même devant la Cour internationale de justice de l'ONU et voilà, elle interrogera la question de l'efficacité ou de l'inefficacité du droit international pour le peuple palestinien. Voilà, donc mardi 26 novembre à 20h à la MJC Pichon à Nancy, 7 boulevard du recteur Seine. Il est toujours intéressant d'entendre les personnes qui sont vraiment les spécialistes du droit et là du droit international nous rappeler sans passion avec clarté, avec rigueur, ce que doit être ce droit que les États ont pensé ensemble et qu'ils sont censés faire appliquer. Le droit, bah, c'est justement un bon moyen d'analyser une situation en dépassionnant aussi le regard qu'on peut porter sur cette situation.
C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs le vice-président de la Ligue des droits de l'homme qui est venu récemment à Nancy. C'était, je crois, oui, à Sciences Po. Et il est intervenu à plusieurs reprises là-dessus.
Oui, il y avait une conférence effectivement organisée à Sciences Po et avec la LDH, je crois que c'était le 7 novembre.
Oui, c'était la semaine dernière.
Il me semble. Oui. Oui. Jean-Claude, on entend ta voix. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'il s'agit de parler d'une autre liberté qui nous tient aussi à cœur chez les libres penseurs de notre fédération. C'est ce que votre association, à laquelle Charles et toi vous appartenez, appelle l'ultime liberté. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est cette ultime liberté, et puis après on reviendra sur les raisons pour lesquelles ce sujet est à nouveau dans l'actualité.
Alors moi je trouve que le titre, enfin le nom de l'association Ultime Liberté est parfaitement adapté. On a, depuis un siècle, nous nous sommes battus pour que les libertés triomphent. Et notamment, pour rappel, hein, une femme n'avait pas le droit de prendre la pilule, elle était condamnable si elle prenait la pilule. On a eu la loi Neuwirth. Elle était condamnée. Il y a eu une condamnation à mort à Nancy, sous Pétain, pour une femme qui avait soi-disant avorté. On s'est aperçu que c'était sa fille après, ça c'est autre chose. Et puis après, il y a eu le mariage pour tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme liberté fondamentale? C'est bien celle-là, c'est la liberté de disposer de soi-même, de disposer de son corps. Et c'est ce que défend Ultime Liberté. Certains considèrent qu'on va loin, ben oui, mais parce qu'on a le courage de nos opinions. On considère que la personne a un droit absolu sur sa vie et qu'elle n'a besoin d'autorisation de personne si elle veut, à un moment donné, l'abréger. Voilà la position d'Ultime Liberté. C'est une position qui est de plus en plus partagée. Je rappelle d'ailleurs que la Convention citoyenne, lors de la Convention citoyenne, 21%, c'était pas rien, des conventionnels ont dit on est pour le suicide assisté et l'euthanasie, même pour des gens qui ne sont pas en fin de vie. Ça, c'était extraordinaire, on s'y attendait pas trop. On sait qu'il y a une majorité de Français, mais très large, qui est pour l'euthanasie et pour le suicide assisté.
On rappelle rapidement la différence entre les deux, entre euthanasie et suicide assisté.
L'euthanasie, il y a intervention d'un tiers. C'est donner la mort, pas tuer, hein, on y reviendra si on en a l'occasion, donner la mort à quelqu'un à sa demande, et c'est un tiers qui s'y colle. Voilà. Le suicide assisté, il n'y a pas de tiers. L'aide consiste simplement à mettre à sa disposition un produit que lui-même va utiliser, qu'il va boire, pour se donner la mort. Donc il y a un élément en moins, c'est le tiers. Voilà. Et c'est important d'ailleurs, hein. Par exemple, à Ultime Liberté, on ne fait pas, il faut être très clair, on ne fait pas d'euthanasie. On fait du suicide assisté. C'est-à-dire que, et ça on ne s'en cache pas, hein, on sait très bien d'ailleurs les ennuis qui nous attendent. On sait très bien jusqu'où on peut aller et jusqu'où on doit aller. Parce que la loi nous interdit normalement d'intervenir, c'est-à-dire de favoriser le décès de quelqu'un. Vous connaissez les incriminations, la condamnation pour non-assistance au suicide, non-assistance à personne en danger ou en péril. Nous, on considère que l'aide, ça doit consister à donner aux gens les moyens de faire eux-mêmes l'acquisition d'un produit. Ils le payent. C'est aussi une preuve supplémentaire que c'est bien eux et de leur propre volonté qu'ils le font. Et c'est eux qui se l'administrent. Et ça, c'est fondamental. Mais le suicide, même assisté, c'est pas une opération neutre. Je veux dire que c'est quand même, il y a une charge émotive que tout le monde connaît. Ce qui fait que nous, on va au bout de notre raisonnement, c'est-à-dire que pour ceux qui nous le demandent, bien sûr, on est là jusqu'au bout. On est là avec eux pour leur tenir la main. On n'est pas là pour leur mettre le produit dans la bouche, c'est clair. On est là pour les assister, pour les aider. Et ça se fait quasiment tout le temps, avec l'accord de la famille, avec l'accord du mari ou de l'épouse, avec les enfants. Et d'ailleurs, on a eu jusqu'à maintenant, à Nancy, hein, je parle, aucune plainte qui a été déposée par la famille. C'est dire à quel point on prépare ça avec les personnes. Un mot encore, c'est important. On nous dit, ah, mais dès que les gens sont en soins palliatifs, ils abandonnent l'idée du suicide. C'est faux. C'est faux. D'ailleurs, Charles le sait bien. On n'a jamais de personnes qui se rétractent. Les gens qui nous demandent de l'aide, ils ont fait une démarche intellectuelle, une démarche affective. Ils viennent, ils savent pourquoi ils viennent et ils vont jusqu'au bout.
Ce que tu expliques là, me fait penser à ce qu'on entend dire de pratiquants d'associations en Suisse. Est-ce que c'est exactement la même chose par rapport à la Suisse ?
C'est à peu près la même chose dans la mesure où il s'agit de suicide assisté en Suisse et pas d'euthanasie. Mmh. Mais là, c'est médicalisé, oui et non. Il faut quand même l'intervention d'un médecin, souvent pour éventuellement voir s'il y a un diagnostic de situation difficile sur le plan médical. Mais ce sont des associations. Ce n'est pas des médecins, ça se fait dans le cadre privé, dans le cadre d'associations. Mais c'est quand même là aussi du suicide assisté, bien sûr.
Alors que donc le cadre légal aujourd'hui, c'est toujours la loi Claeys-Leonetti qui a été modulée. Hein, on a une deuxième version, mais elle accompagne simplement en sédation profonde et continue.
Hein, mais si je ne me trompe pas. Il y a un autre problème qui se pose. On en parlait récemment lors d'une conférence où on était intervenu. On nous dit les directives anticipées. C'est-à-dire la manifestation de volonté, dire « je ne souhaite pas être réanimé », etc. On nous dit « les directives anticipées sont opposables ». C'est faux. Soit c'est un mensonge, soit c'est une erreur. Puisque elles sont opposables, sauf, ben, il suffit qu'on dise « sauf » pour savoir qu'elles ne le sont pas. Elles ne sont pas opposables, sauf urgence, et sauf disposition inappropriée. Qui juge de l'inappropriation des directives ? C'est le médecin. Donc on est à peu près dans la même situation qu'on l'était en 2005, ou à peu près. On est en retrait par rapport à trois pays qui nous sont proches, le Luxembourg, la Belgique, la Hollande, même l'Espagne, c'est quatre monarchies, ça me fait toujours rigoler quand je dis ça, hein, qui, elles, acceptent l'euthanasie et le suicide assisté. Nous, on est loin de ça.
Donc les directives anticipées, c'est un document que chacun peut compléter, que chacun peut préparer, qu'on peut trouver où ? Charles, tu sais.
Sur un site national, c'est l'État qui, je sais pas comment ça s'appelle, un CERFA, un truc comme ça.
Oui, tout à fait.
Donc, il est quand même important de le faire. Hein, pour déjà que les personnes de confiance doivent être désignées pour qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique, justement, hein, pour aller jusqu'au suicide. Parce que c'est quand même, malheureusement, comme l'a dit Jean-Claude, c'est quand même les tout-bibles qui auront le dernier mot pour le moment. C'est ça qui est le problème. Nous, on veut que ce soit les personnes qui aient... Mais quand on a écrit clairement son désir en cas de problème sérieux de santé, d'accident, hein, aussi, d'en finir quoi, la vie, ou qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique, quoi, on débranche ça. Mais c'est un pis-aller, si vous voulez, mais vaut mieux l'écrire quand même. Mmh. Moi, je conseille à toutes les personnes de le faire, quoi. Quel que soit son âge, en plus. Mais il faut le renouveler tous les 3-4 ans, tous les 3-5 ans. Je ne sais pas comment c'est classé correctement, si c'est pas ça.
Normalement, on n'a pas à les réécrire, on n'a pas à les reformuler, mais on conseille aux gens de le faire, parce qu'on entend facilement en France, mais qu'est-ce qu'ils penseraient aujourd'hui ?
Oui, voilà, hein, c'est ça. Ce sont des directives qui ont été faites il y a 6 ans, 7 ans, aujourd'hui.
Mais ce que dit Charles est important. Les directives anticipées, ce n'est pas parce qu'elles sont imparfaites qu'il ne faut pas les remplir. Mmh. Parce qu'il y a notamment, tu viens d'y faire allusion, Charles, à la personne de confiance. La personne de confiance n'intervient que quand la personne elle-même est inconsciente, quand elle ne peut pas intervenir elle-même. Mais il faut savoir que, juridiquement, la personne de confiance dispose d'un mandat pour représenter. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés. N'oublions pas que ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille.
Mais voilà, c'est ça. C'est n'importe quelle personne, on peut choisir...
N'importe quelle personne dont la vie va primer sur la famille. Mmh. Hein? Donc c'est important, ces directives anticipées.
Oui, parce que donc aux yeux de la loi, la personne qui est désignée comme personne de confiance devrait être la personne qui décide en fait de la situation, si je vous suis bien.
Oui, qui se fait l'expression de la volonté de la personne, c'est daté, signé, authentifié. Hein. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. En plus, en France, on n'a pas un texte qui donne la priorité véritablement. Dans certains pays, c'est l'épouse ou l'époux. les enfants, mm-hmm. tous ceux qui sont en ligne directe. Chez nous, il y a toujours des hésitations. Les médecins font ce qu'ils veulent là-dessus. Et ça, c'est très gênant.
Oh, pourquoi est-ce que c'est très gênant? Parce que peut-être que nos auditeurs, nos auditrices se disent que le médecin, il sait.
Ah, il y a un bel exemple.
Je me fais l'avocat du diable.
Oui, il y a un bel exemple récent. D'abord, tiens, si on a 10 secondes, je voudrais qu'on revienne sur le mot tuer. On l'entend sans arrêt. Les médecins nous disent, on n'est pas là pour tuer. Prenez n'importe quel dictionnaire. Le dictionnaire donne la définition. Tous. Tuer, c'est donner la mort à quelqu'un avec violence à une personne qui ne l'a pas demandé. Et ces éléments-là sont importants. Si un médecin ou nous, dans le cadre associatif, on aide des gens à partir, on ne les tue pas, on les libère, on leur permet de se libérer de leur douleur, de leur souffrance. Mmh. C'est quand même pas du tout la même chose.
Mmh. Oui, donc c'est un des arguments, en cela tu réponds à ma question, c'est un des arguments qu'on peut entendre de la part du corps médical, de dire qu'ils n'ont pas été formés pour accomplir ce geste-là et pour aider les personnes à mourir, effectivement.
Mais en même temps, ils sont en pleine ambiguïté. Ils nous disent, on n'est pas là pour tuer. Et nous, on leur dit, mais banco, laissez-nous faire. Laissez faire des associations ad hoc qui seraient mises en place. Mmh. Mais aussitôt après, ils disent, ah oui, mais il faut quand même qu'on soit là. En fait, il faut l'autorisation médicale, toujours derrière. Or, on ne voit pas en quoi on a besoin d'une autorisation pour disposer de sa propre liberté.
Le verbe tuer, il est important parce que quand on en parle, quand on entend parler dans les médias et notamment quand on entend parler de ce sujet par certains procès, évidemment, c'est un verbe qu'on entend. Et donc, c'est vrai qu'il faut être précis pour qu'on comprenne bien la situation et les enjeux de ces situations. Alors, tu as rappelé tout à l'heure la Convention citoyenne qui effectivement devait, et a rendu d'ailleurs un avis sur deux choses, deux dossiers qui sont aussi vraiment séparés et qu'on a tendance à confondre, c'est d'une part le traitement de la douleur et les soins palliatifs qu'il faut encore faire évoluer parce qu'on manque en France de centres de soins palliatifs, la question de la douleur est toujours une question qui interroge, le traitement de la douleur, donc ça c'est un sujet qu'il faut traiter d'une part, et il y a d'autre part, on a trop souvent tendance à vouloir rabattre un sujet sur l'autre, il y a d'autre part cette question de la mort délibérée, je ne sais plus comment s'appelle ce philosophe que j'ai entendu en conférence grâce à votre association qui parle de mort délibérée. Son nom m'échappe. Pardon.
Moi aussi j'ai des petites pannes moi sur le... c'est Galichet je crois.
Voilà Galichet. Ouais, merci Monsieur Galichet.
Mais il vient de se passer une chose tout à fait extraordinaire.
Alors, tu parles du procès ?
Ah oui,
alors,
parce que
voilà,
là...
Bah, parlons-en, c'est pour ça que j'y pensais aussi, parce que c'est dans l'actualité. En octobre 2021, un monsieur de 75 ans a donné la mort, et là j'ai sous les yeux un article de presse qui dit « a tué ».
Voilà.
Donc, il a donné la mort à son épouse, avec qui il vivait depuis plus de 50 ans, je crois. Alors, ce monsieur est un monsieur qui a une vie tout à fait installée, avec cette épouse, etc. Mais elle souffre énormément et elle lui demande cette aide pour mourir. Et il l'aide. Et évidemment, il sait ce qu'il attend, malgré, bien sûr, la demande de sa femme, l'accompagnement aussi de ses enfants qui comprennent la situation et qui comprennent la nécessité du geste. Mais évidemment, la justice passe par là, puisque actuellement la loi n'autorise pas ce geste-là. Or, il se trouve que tu connais bien ce procès, Jean-Claude, parce que
cité comme témoin, entre autres, avec Claude Ury d'ailleurs, Claude Ury qui est notre présidente fondatrice. Alors, c'est un cas très intéressant. Déjà, c'est la décision de la cour d'assises de Troyes est historique, et on ne se paye pas de mots en disant ça. Voilà un type, Bernard Palot, qui est convaincu sur le plan juridique d'assassinat, c'est-à-dire que c'est crime plus une circonstance aggravante avec la préméditation, qui est acquitté. Alors que le procureur de la République demandait avec beaucoup d'insistance aux jurés, il leur disait « Vous ne pouvez pas l'acquitter, c'est un assassin, on n'acquitte pas un assassin ». La présidente de la cour était quand même plus nuancée. Eh bien, il se trouve que les 6 jurés ont résisté à la pression. Et on a eu d'ailleurs, grâce aussi à l'intervention des 2 avocats, Maître Vera et puis sa collègue, on a eu des plaidoiries fantastiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a acquitter quelqu'un qui est convaincu. Alors, pourquoi ? Ben, il nous aurait connu, moi je l'ai dit à la présidente au cours de, mon témoignage, je lui ai dit, s'il nous avait connu, sa femme serait partie dans de bien meilleures conditions. Elle serait partie sans aucune souffrance et il ne serait pas devant vous. Et j'ai même ajouté, c'est pas sur le banc des accusés que Bernard Palot devrait se trouver, mais sur le banc des victimes, parce qu'il a été victime de cette absence de loi. C'est nos députés et sénateurs qui devraient être sur le banc des accusés. Hein. Et là, il s'est trouvé dans une situation, important, elle n'était pas en fin de vie. Ça, c'est très important, parce que quand les lois, la loi qu'on va avoir, je suis mauvais prophète, je sais, hein, la loi qu'on va avoir, elle va dire, elle va comporter des restrictions terribles, et notamment, il faut être en fin de vie. Or,
elle était malade, mais pas en fin de vie. Elle avait une maladie chronique, elle souffrait énormément, mais
et incurable, et qu'on ne pouvait pas
son pronostic vital n'était pas engagé. Absolument. Elle était condamnée à souffrir pour un temps indéterminé.
C'est d'ailleurs pourquoi la décision de la cour de la cour d'assises de Troyes est tout à fait exemplaire et vraiment historique.
Qui t'a demandé de venir témoigner au procès ? Donc c'est la défense qui a demandé à ce que tu interviennes
C'est la défense.
Au titre de l'association Ultime Liberté ?
Oui, mais en fait, bon, bien sûr, on a parlé d'Ultime Liberté, de nos positions. Simplement, moi, j'ai voulu rappeler à la cour d'assises l'exemple de mon frère que j'ai aidé à mourir, puisque je suis d'ailleurs attrait devant un tribunal correctionnel avec 12 autres de mes amis.
On parlera aussi de ce procès.
On en parlera éventuellement si on a le temps. J'ai expliqué que non seulement j'avais aidé mon frère, il était en soins palliatifs à domicile. Tenez-vous bien, 98 kilos quand il est rentré, quand il s'est aperçu de sa maladie, 48 kilos quand je l'ai aidé. Il avait perdu un peu plus de la moitié de son poids. Il vomissait du sang. Il avait une petite cuvette à côté de lui. Il était en soins palliatifs. Ça ne suffisait pas pour qu'on l'aide. Je ne veux pas jeter la pierre aux médecins, d'ailleurs. Ils avaient peur de se faire taxer d'euthanasie, de pratique euthanasique. Et moi, je lui ai non seulement fourni le produit, mais je l'ai même mis en œuvre dans une seringue parce qu'il avait une alimentation parentérale. Et c'est lui, d'ailleurs, heureusement, qui a pu appuyer sur le piston. Il s'est libéré en 4 minutes 40, alors qu'il était dans un état dramatique, qu'il souffrait énormément. Il s'est libéré, voilà ce qu'on peut dire.
Oui, c'est un argument que j'ai souvent entendu, de dire que la loi doit permettre aux personnes aussi d'accéder à des produits qui leur permettent de partir dignement, justement. De ne pas se retrouver contrainte à des morts d'une extrême violence. Enfin, je pense, j'ai lu qu'une femme à Lyon avait, alors en procès aussi, je crois,
elle a
mis le feu au lit d'un parent souffrant pour les
de son grand-père,
de son grand-père. C'est atroce, vraiment. Et j'ai regardé aussi le reportage sur son nom m'échappe, Bernard ce monsieur que tu as accompagné au procès,
Bernard Palot,
et on sent l'émotion très forte qui est la sienne, et à la fois le soulagement parce qu'il a répondu à une demande de son épouse, et en même temps la souffrance parce qu'il a perdu la femme de sa vie, la personne qui était pour lui la plus chère au monde. Donc rien ne va de soi, mais la loi doit permettre aux personnes de pouvoir vivre ce moment-là dans les meilleures conditions possible.
Et il était soutenu totalement par son fils qui était là, François.
Oui.
On a beaucoup discuté, on a eu 3 jours où on pouvait, pendant les pauses, discuter. Lui a expliqué que, bien entendu, il ne considérait pas son père comme un assassin, qu'il le remerciait d'avoir aidé sa mère dans la souffrance que personne ne voulait traiter.
Alors je crois que le parquet a fait appel de cet acquittement. Donc il faudra attendre...
quelques mois, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision de l'appel, cette décision, elle est historique, il faut être clair. Et Maître Vera l'a rappelé, d'ailleurs, j'ai vu des articles de journaux où il l'a rappelé, mais il a beaucoup insisté dans sa plaidoirie, ainsi que sa collègue Marine, ils ont beaucoup insisté sur la notion de contrainte. C'est-à-dire qu'il était dans une situation où il ne pouvait pas ne pas répondre à sa femme qui hurlait de douleur et qui lui disait... Aide-moi, étouffe-moi, étrangle-moi. Elle lui disait ça.
Oui, c'est une situation particulièrement douloureuse. J'ai trouvé une chanson d'une chanteuse qui n'est pas toute jeune, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Paul Bell, et qui s'appelle Un pas de plus, et qui convient tout à fait à notre sujet, Marie-Paul Bell.
Elle est marrante en plus.
À l'hôpital Sainte-Marguerite, ton cœur bat de moins en moins vite. Je lis des mots dans ton regard, des mots. Certains ne veulent pas les comprendre, et moi, je suis seule à entendre ces mots que tu voudrais crier tout haut. Dis-le que je suis prêt, je pars vers l'inconnu. Aide-moi à faire un pas de plus. À l'hôpital Sainte-Marguerite, je vois ta douleur et j'hésite. La loi dit non, qu'est-ce qu'elle comprend, la loi? Finir ta vie d'un simple geste, geste d'amour que je déteste. Dois-je obéir quand tu me dis tout bas? Dis-leur que j'ai si mal, dis-leur que j'en peux plus. Notre amour n'y peut rien et moi je suis perdue. Dis-leur que je suis prêt, je pars vers l'inconnu. Aide-moi à faire un pas de plus. À l'hôpital Sainte-Marguerite, la décision est interdite, mais je ne dois penser qu'à toi, qu'à toi. Si tu me dictais ma conduite, ce serait ma dernière visite, et je n'entendrai plus jamais ta voix. Je sais que tu as mal, je sais que t'en peux plus. Notre amour n'y peut rien, et toi tu es perdu. Je sais que tu es prêt à faire un pas de plus. Un dernier pas sans moi, un pas vers l'inconnu. Un pas.
RCN, raison gardée, le dernier lundi du mois à 11h.
On écoutait Marie-Paul Bell, qui est une chanteuse amusante, mais cette chanson ne l'est pas, Jean-Claude, parce que, quand tu disais tout à l'heure, elle est rigolote, ce n'est pas cette chanson, et nos auditeurs et nos auditrices l'auront bien entendu. C'est une chanson qui parle justement de la fin de vie et du choix de faire un pas de plus. Et c'est une chanson qui date de 2005. Et je crois malheureusement qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Dans ton intervention, Jean-Claude, tu évoquais aussi un autre procès. Alors, qui s'annonce? On attend encore une date, un procès qui te concerne comme d'autres personnes, oui. Justement pour votre action au sein de l'association Ultime Liberté. Alors, c'est le procès s'annonce ou...
Le procès s'annonce depuis 3 ans. Mmh. Hein, il y a eu plus de 150 perquisitions il y a 3 ans. C'est impressionnant, hein, ça veut dire 3 gendarmes le même jour à la même heure, chez 153 personnes, je crois. Ensuite, il y a eu des gardes à vue. Alors, moi j'ai fait une garde à vue de 13 heures, mais notre présidente a fait une garde à vue de 2 jours. Et nous avons été reçus par le juge d'instruction, parce que l'affaire est regroupée à Paris, ce qui est bien d'ailleurs. Et le juge d'instruction a essayé de savoir exactement quelles étaient nos pratiques. Et d'ailleurs c'est assez amusant, parce qu'il m'avait mis 3 affaires sur le dos, Et je savais ça, qu'en droit, il ne pouvait pas sortir du créneau de temps qui lui était confié, parce qu'il savait très bien qu'on en avait fait avant, y compris qu'on avait fait l'acquisition de produits avant, puisqu'à l'époque, on se fournissait en Chine. Et il y a eu des moments forts hein, dans cette audition. Déjà, pour dire à quel point la justice est embêtée avec ses... Elle ne sait plus par quel bout prendre ses procès. On nous a proposé, tenez-vous bien, ce qu'on appelle la reconnaissance préalable de culpabilité. C'est le plaidé coupable à l'américaine. Mmh. En gros, pour faire un petit peu de caricature, on vous passe, vous êtes devant un juge, il n'y a personne, il vous passe la main dans les cheveux, vous lui avez dit que vous étiez coupable, et il vous dit, bon, on ne va pas être très méchant avec vous. Mmh. Sur les 13, il n'y en a pas un qui a accepté ça. On a dit, nous, on veut effectivement un procès. Et quand on voit dans les réquisitions du procureur qu'il est mis, qu'il est écrit, il n'est pas question de faire de ce procès une tribune, vous imaginez bien que nous, on a l'intention, bien sûr, d'en faire une tribune. Mmh. Moi, quand le juge d'instruction m'a dit à un moment, puisque je venais de lui parler de la mort de mon frère, il m'a dit, mais qu'est-ce que ça vous fait? Vous prenez le pouls des gens, quand le pouls s'arrête, les gens meurent, vous vous sentez coupable? Mais moi, j'ai dit, je me sentirais coupable de ne pas l'avoir aidé. Essayez de comprendre, vous êtes devant votre classe, parce que moi, quand je me rase le matin, je ne pense pas à la présidence de la République, mais j'ai envie d'avoir quelqu'un en face qui m'inspire à peu près confiance. Tous les gens que j'ai aidés, je me suis dit, si je ne l'avais pas fait, je porterais ça comme une charge.
Alors, pas d'information encore sur le...
Non,
sur
on n'a pas de date.
On n'a pas de procès.
Mais on a reçu la réquisition du procureur, en revanche, il y a à peu près 2 mois, 3 mois. Et on s'aperçoit que le dossier s'est bien dégonflé. Hein, parce qu'à une époque, on nous parlait de propagande. J'avais essayé de discuter avec le juge en lui disant, mais on ne fait pas de propagande, nous, on ne fait pas passer des articles dans les journaux. D'ailleurs, qui fait de la propagande pour le produit? C'est précisément la justice. Parce que maintenant, tout le monde sait qu'avec du pentobarbital, aujourd'hui, avec du nitrite de sodium, on peut se libérer de ses souffrances. Mmh. Voilà.
D'accord. Et donc, le fait d'avoir reçu ce document indique quand même qu'on est dans une étape du processus.
Oui, oui, oui.
Mais ça ne veut pas dire que les choses approchent, forcément.
Non. Déjà, le procès, il aura lieu, puisque on nous avait dit qu'il y a 3 solutions. Hein. Il y a le non-lieu. Comptez pas sur un non-lieu avec une procédure aussi coûteuse. Vous avez le tribunal correctionnel et vous avez cette fameuse reconnaissance préalable de culpabilité. Donc, le procès aura lieu. Les 13 passeront en même temps à Paris. Ça sera l'occasion d'ailleurs d'une réjouissance avec un certain nombre de nos amis parisiens et d'autres qui viendront nous soutenir.
Et
il ne reste plus grand-chose dans le dossier. Il reste acquisition d'un produit interdit. Alors, il y avait... Attends, ça, c'est quand même un truc qu'il faut signaler. Il y avait, dans les incriminations au début, exercice illégal de la profession de pharmacien.
Ah oui, d'accord. Et donc, pharmacopée clandestine.
Voilà. Vous... Et les pharmaciens avaient immédiatement, l'ordre des pharmaciens s'était porté partie civile. Eh bien, ça, c'est balayé. On n'en parle plus. Hein. Donc, il reste un dossier assez mince. Mais bien sûr, ils peuvent nous condamner. Et d'ailleurs, nous, on s'y attend. On sait très bien, depuis le début, qu'on est dans l'illégalité. Je regarde Charles, je lui dis quand même, t'es en plein dans l'illégalité, toi. Mais on pense que notre combat est légitime. C'est pas pareil, hein, la légalité, la légitimité.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Mais je sais pas, parce que l'année prochaine est prévue aussi, on sait pas... la remise en route de la fameuse loi sur la fin de vie.
Absolument.
Oui, j'ai entendu ça.
Je ne sais pas s'ils font en même temps les deux choses.
Oui, j'ai entendu...
Ce serait assez intéressant que ça soit un petit peu avant le débat de l'Assemblée nationale, par exemple.
Enfin, oui, parce que j'ai lu début octobre que Agnès Firmin-Lebaudeau, qui avait rédigé... donc elle était ministre hein, avant de la Santé, ça, elle avait rédigé un rapport. Oui. Elle se félicitait du fait que l'actuel Premier ministre, Michel Barnier, avait exprimé son souhait de voir remis sur la table le projet, que le travail parlementaire reprenne sur cette question.
On parle de fin janvier, d'ailleurs. Hein.
Sans doute sera-t-il question à nouveau de ce thème-là. Alors c'est vrai qu'il apparaît dans l'actualité, puis qui disparaît de façon très régulière depuis des années. Alors on voit bien que c'est un grand sujet qui touche aux libertés de chacun, un grand sujet de société. que, tu le disais tout à l'heure, Jean-Claude, les Français sont majoritairement prêts à une évolution de la loi, mais voilà, la loi elle-même tarde à être écrite. Pour terminer sur ce sujet, moi, j'avais, alors, je ne sais pas si vous l'avez lu tous les deux, moi j'avais lu un roman qui m'avait bien plu de Lionel Shriver, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle « Apprendre ou à laisser », et qui est un jeu de variation sur la vieillesse et la fin de vie d'un couple. En fait, c'est l'histoire de deux personnages qui s'étaient dit que, arrivés à 80 ans, je crois, ils mettraient fin à leur vie ensemble. Et le roman constitue une succession de fins de vie possibles de ce couple-là, alors avec beaucoup d'humour, mais aussi des passages très très émouvants. Alors, il y a celui qui sort bêtement pour justement aller à la poste chercher du produit et qui se fait écraser. Qui hésite au tout dernier moment, alors qui est pris entre sa promesse et puis le fait que il a pris quelque chose et puis finalement il sait plus très bien s'il a envie de mourir et de respecter sa promesse. Il y a plein de variations. C'est un roman qui est très drôle parce que le sujet.
Ça, il faut que je le lise. Mais il y a beaucoup de films, surtout.
Lionel Shriver aux éditions Belfond, Apprendre ou à laisser. Il est sorti il y a quelques temps. Je sais plus la date exacte. Il y a quelques temps. Et puis il y a. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Je me demandais si vous l'aviez lu. En souvenir d'André de Martin Winkler.
Non, il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent.
Ce que j'en ai lu m'a donné envie de le lire. Alors, je ne sais pas, je partage cette envie avec les auditeurs. On y reviendra peut-être un jour à l'occasion. Martin Winkler, il avait écrit La maladie de Zax, qui était un très très beau roman. C'est un médecin qui écrit beaucoup. Il a aussi beaucoup écrit sur les femmes, les rapports en gynécologie, la façon dont sont traitées les femmes. Et puis, je pensais à un très beau film, alors, qui date un peu, il date de 2005, d'Amin Abar, mais. Qui s'appelle Maria Dentro.
Alors, qui met
en scène effectivement quelqu'un qui est très malade, qui est tétraplégique. C'est l'histoire vraie de Ramon San Pedro, qui est devenu tétraplégique quand il était très jeune à cause d'un plongeon qui avait entraîné cette tétraplégie. Il a fait une très mauvaise chute, etc. Et donc il était alité. Et c'est un film avec Javier Bardem qui joue le rôle de Ramon San Pedro, qui est un très beau film sur la question de la fin de vie.
Et il y a un passage absolument extraordinaire. Il y a un moment, il y a un curé qui vient, qui est dans un fauteuil, qui est paraplégique aussi. Et ils n'arrivent pas à monter le fauteuil parce que les escaliers sont trop étroits. Ils discutent comme ça du premier au rez-de-chaussée. Et à un moment, le curé lui dit mais enfin, moi, j'ai une paraplégie, je suis paraplégique. J'ai pas envie de me tuer. Et le gars, San Pedro lui répond, mais moi je ne vous parle pas de paraplégie, je vous parle de ma paraplégie. Ce qui relance le débat que tu avais un peu amorcé tout à l'heure sur l'histoire de la dignité notamment.
Oui, et puis c'est ma paraplégie, c'est ma vie. Enfin, voilà. C'est aussi cette idée que le choix doit être celui de l'individu devant la mort. Tout à l'heure, on cherchait, on était bien gênés, le nom de François Galichet. Les ouvrages de François Galichet aussi sont très intéressants. On peut trouver plusieurs de ses entretiens en ligne. Il a un atelier populaire de philosophie en ligne, d'ailleurs. Donc, si vous cherchez François Galichet, c'est Galichet. Vous pourrez découvrir ces textes et sa réflexion. Je trouve que c'est très, très enrichissant.
On peut aussi signaler quand même le site d'Ultime Liberté. Mmh. Je crois que c'est ultimeliberté.net, qui est très riche, qui est bien foutu. Et ça, s'il y en a qui sont intéressés par cette problématique, je leur conseille d'aller voir ce site.
D'accord.
Moi, j'aurais voulu aussi annoncer, vu que la Libre Pensée est un mouvement pacifiste et contre la guerre, le 3 décembre et le 5 décembre à Nancy. Donc, le 3 décembre à MJC Lillebonne, il y a une soirée pour le désarmement, et une autre le 5 décembre à l'espace Ancrage, à Ancrage, qui se trouve 18 rue Varingue. Donc, à partir de 19h et 18h30 pour Lisbonne, le 3 et 19h le 5. Sur le désarmement et les armes nucléaires, la dénucléarisation, voilà.
D'accord. Donc le 3, c'est...
Le 3 décembre, c'est 18h30 à MJC Lillebonne. C'est projection d'un film, Héritage empoisonné. C'est sur la Bure et tout ça, quoi. Et le 5 décembre, Ancrage, c'est contre les expropriations à Bure aussi. Enfin, ça concerne toujours le nucléaire. Civil et militaire, bien sûr.
D'accord. Donc, rue Véringue à Nancy. Pour la deuxième
le 5
soirée.
Décembre, c'est donc à Ancrage, 18 rue Varingue, à Nancy, à partir de 19h.
Et puis on a eu l'occasion, nous, de participer tous les trois d'ailleurs, au 11 novembre, comme on le fait tous les ans, sous l'Arc-Erré. Et là, c'est bel et bien une manifestation aussi contre la guerre.
Manifestation pacifiste.
Oui, oui.
Oui, que nous n'avons peut-être pas eu l'occasion d'annoncer à l'antenne d'ailleurs, parce que nous avions enregistré. Le timing n'était pas le bon.
On n'a pas anticipé.
Donc. Mais là, donc plusieurs dates. On a dit le 26 novembre sur la question du droit international à 20h à la MJC Pichon, et le 3 et 5 décembre, deux soirées, une à la MJC Lillebonne à 18h30, l'autre à Ancrage pour la question du nucléaire. Merci Joris à la technique, merci RCN de nous ouvrir son antenne, et à très bientôt dans Raison Gardée.